Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC. Je suis très heureux de vous accompagner pendant les trois prochaines heures. Trois heures de direct, trois heures de sport avec les championnats européens. Le départ qui vient d'être donné à l'instant du triathlon. Messieurs, on suivra également la finale en escalade du bloc dames avec une chance française de médaille. On n'oublie pas le football avec dans une heure le coup d'envoi du deuxième match de la deuxième journée de Ligue 1 et déjà ce premier choc de la saison entre Monaco et Rennes. Hashtag RMC Live et appli direct studio pour vos messages. Les directs ont commencé déjà cet après-midi. Il y a de la Ligue 2 avec ce match entre l'En Avant Guingamp et le Paris FC. La deuxième mi-temps vient de redémarrer. Bonjour Xavier Grimaud.
Salut Arnaud, rebonjour à tous. C'est reparti effectivement depuis 3 minutes à Roudourou. 0-0 entre Guingamp et le Paris FC. Une première période au final plutôt très équilibrée, sans grosse situation. Les Guingampais qui ont bien attaqué cette deuxième période avec deux situations, on va pas dire chaudes, mais un peu tièdes dans la surface de réparation du Paris FC. Notamment un contact entre Maxime Bernauer et Jérémy Livolant. Pas de pénalty pour Monsieur Paradis, l'arbitre du jour, et à juste titre, puisque l'intervention de Maxime Bernauer était a priori licite. Donc on va voir si les équipes vont se lâcher un petit peu. On rappelle la photo avant ce match. Guingamp leader de Ligue 2 face au Paris FC, 4e. Guingamp qui a gagné ses deux premiers matchs. Livolant qui déborde encore côté gauche. Une nouvelle situation à nouveau côté gauche pour les Guingampais avec Stéphane Kemper qui est un peu manquer son contrôle, il va peut-être pouvoir essayer de centrer quand même, il va revenir vers Dylan Louisser, côté gauche pour Mouyumba. Allez, il faut centrer Mouyumba, il y a 2-3 Guingampais dans la surface de réparation, la magnifique passe pour Kemper, la passe pour Kathleen et le tacle à nouveau de Maxime Bernauer qui écope parfaitement bien pour le Paris FC en ce début de seconde période. La 49e, ça chauffe un peu pour les Bretons. 0-0 entre Guingamp et le Paris FC.
Tout à l'heure, Xavier, direction Munich avec ses championnats européens. L'athlétisme va démarrer dans quelques jours, mais ça a déjà commencé avec le triathlon. Hier, il y a eu les dames et cette médaille de bronze chez les femmes. Et les hommes viennent de s'élancer. Bonjour Valentin Jamin.
Salut Arnaud, salut à toutes et à tous. Effectivement, cela fait 8 minutes tout pile maintenant que les garçons sont dans l'eau. Vous le savez, le triathlon, c'est de la natation, du vélo et de la course. 1,5 km de natation, ils y sont donc. Puis 40 km de vélo et 10 km de course. Pour finir, on a 3 Français en lice. Dorian Coninx, qui était champion d'Europe l'an passé, 28 ans. Pierre Lecor, 32 ans, champion d'Europe en 2018. Tom Richard ou encore, on en reparlera, Léo Berger, 26 ans, qui se révèle cette année, qui fait partie des grands favoris, d'autant qu'il y a pas mal d'absents sur ce triathlon des championnats d'Europe. Donc pour l'instant, on n'a même pas fait encore 750 mètres dans l'eau. Je vous dis ça parce qu'on aura les premiers intermédiaires d'ici quelques secondes quand on sera aux 750 mètres de nage.
Soit la moitié du parcours. Exactement. De nage d'un kilomètre 5. Merci Valentin. On te retrouve dans un instant pour évoquer un peu plus en détail cette composition française et notamment Léo Berger qui fait une saison absolument sensationnelle. À Munich toujours, c'est l'escalade qui attire également notre attention dans l'intégral sport avec Morgan Maury en plein centre-ville de Munich. Bonjour Morgane.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous sur la Königsplatz de Munich, à côté de ces musées des antiquités de Munich. Il fait très chaud, plein soleil, il y a peut-être 3000, 4000 personnes qui sont au pied de cette scène d'escalade. Ça sent la frite, ça sent la saucisse, ça sent les gaufres. C'est grand spectacle en tout cas.
Et en plein cœur de Munich, il y a ce site d'escalade avec ses différents blocs, ses différents murs. Et on a une chance française puisque la finale dame de la difficulté vient de commencer. Et on a une Française qui s'est brillamment qualifiée, qui a obtenu une très belle place en demi-finale, Morgane.
Oui, Manon Hilly qui a terminé deuxième des demi-finales. Il y a seulement 8 qualifiés pour la finale sur 26 grimpeuses engagées en demi-finale. Donc deuxième place pour Manon Hilly. Elle va s'élancer vers 16h40, 16h45, la grimpeuse réunionnaise avec des vraies envies de médaille. Mais ce mur est extrêmement difficile. Il commence vers la droite, il monte raide et ensuite la déclivité, l'inclinaison du mur change. On passe à travers une espèce de pyramide bleue. Vous êtes le dos parallèle au sol mondiale à ce moment-là. Pour l'instant, il y a deux concurrentes qui en ont terminé, Arnaud. Eliska Adamovska pour la République tchèque est montée assez haut. Elle a atteint la prise numéro 37 et ça a été beaucoup plus rapide, plus expéditif pour l'Ukrainienne Yevgenia Katsbekova qui a lâché prise après la 18e prise. La grande favorite, c'est la jeune femme qui passera derrière Manon Ili tout à l'heure, la Slovène Janja Gambret, qui est championne du monde, 6 fois championne du monde et championne olympique à Tokyo. Ça vient de partir dans cette finale de la difficulté. Pour l'instant, Adamovska, la Tchèque, est en tête. Manon Ili, seule française de cette finale, vers 16h40.
Et on suivra ça sur AMC dans 10 minutes. On revient vers toi, Morgane, pour nous parler également des hommes, puisque en bloc, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. À tout de suite, Morgane. Direction Monaco, la principauté, le stade Louis II, avec le choc de cette journée. Un match très important déjà pour la lutte pour l'Europe, le troisième de l'an passé, Monaco, qui reçoit le quatrième, le stade Rennais, les Monégasques, qui doivent digérer leur élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions mardi à Eindhoven, et les Rennais, qui doivent enfin marquer leur premier point après avoir perdu contre Lorient dimanche dernier au stade Louis II. Ils sont déjà en place, Florent Germain et Maxime Tilliette. Bonjour messieurs.
Salut Arnaud.
Salut, salut, bonjour à tous.
Avez-vous les compositions?
Affirmatif.
Tout à fait.
Et bien nous vous écoutons.
Honneur aux Monégasques.
Allez, honneur aux Monégasques, avec dans les buts Alexander Nubel, la défense de droite à gauche, Vanderson, Dizazi, Guillermo Maripan et Caio Henrique. Devant la défense, c'est Jean-Lucas qui va accompagner Youssouf Fofana. Dans les couloirs, Crépin Diata et Alexander Golovin. Et puis dans l'axe, pour composer ce duo offensif, une nouveauté, c'est la première fois qu'ils sont alignés ensemble, Wissam Ben Yedder et Brel Embolo.
Et du côté de Rennes, c'est le même 11 exactement par rapport à celui qui avait ouvert le championnat de Ligue 1, avec cette défaite, on le sait, à domicile contre les Lorientais. Steve Mandanda dans le but rennais. La défense de droite à gauche, Traoré, le capitaine, Joe Rodon, Arthur Théat et Adrien Truffert. Un milieu de terrain avec Baptiste Santamaria, entouré de Flavien Tay et de Lovro Maier. Et donc le trio offensif sans Arnaud Kalimuendo. Hein, Kalimuendo, recrue phare offensive de cette semaine, de cet été même pour le Stade Rennais. Il est sur le banc des remplaçants, Kalimuendo. Donc le trio offensif, Bourigeaud, Terrier et Gaëtan Laborde. Il y a quand même du beau monde, du très beau monde sur la pelouse, avec en plus un beau soleil ici à Monaco.
Ah, ça a du costaud effectivement sur cette affiche déjà qui s'annonce comme le premier choc de la saison. Présentation plus complète à venir juste avant le coup d'envoi à 17h avec vous messieurs. Direction, comme promis, retour à Munich. On a fait un point sur les différents directs avec le triathlon messieurs. Valentin Jamin, d'ailleurs, est-ce qu'on a enfin le premier pointage après la moitié de cette distance en natation, 1,5 km au total avant d'attaquer le vélo puis la course? Est-ce qu'on a déjà un premier pointage pour ce triathlon messieurs, Valentin?
On l'a ce premier pointage à 750 mètres de natation, donc à la moitié du trajet parcouru à la nage. C'est un Hongrois qui est devant, Marc Devaille, devant un Allemand, Tim Hellwig, et un autre Hongrois, Ksongsor Lehmann. Le premier Français, c'est Dorian Coninx, qui est passé 6e avec 8 secondes de retard sur la tête. Et puis en 12e et 13e position, on a Pierre Lecor passé avec 23 secondes de retard et Léo Berger passé avec 24 secondes de retard. Léo Berger, on sait que c'était pas son gros point fort, la natation. Il dit qu'il a beaucoup bossé dessus, mais il se pourrait effectivement qu'il perde quelques secondes. Attention, parce que c'est important évidemment de sortir de haut dans le premier groupe derrière pour le vélo, pour ne pas se faire trop distancer. Le dernier Français, c'est Tom Richard, qui lui a 41 secondes de retard à ce premier pointage à 750 mètres de natation.
Alors Valentin, on a eu hier déjà une bonne nouvelle avec cette belle promesse et surtout une athlète qui est fléchée, destinée pour Paris 2024, puisqu'on a eu une médaille de bronze avec la toute jeune Emma Lombardi.
Oui, c'est pas forcément celle qu'on attendait, hein. Emma Lombardi, on pensait plus pourquoi pas à Cassandre Beaugrand qui avait fait médaille de bronze en 2018 au championnat d'Europe. Elle était favorite, mais dans un jour sans physiquement, et bien pas de souci. Emma Lombardi a pris le relais, 21 ans seulement, c'est sa toute première saison chez les seniors. Elle était double championne de France junior, championne du monde catégorie U23 l'an dernier, et donc premier podium sur un grand championnat dès hier. Alors on savait qu'elle avait un très bon niveau, Emma Lombardi, parce qu'il y a au triathlon les World Championship Triathlon Series. En gros, pour résumer, c'est le circuit mondial qui à la fin va désigner un champion du monde. Et donc, sur sa toute première étape de ce circuit mondial, elle avait fait quatrième déjà chez les seniors. Donc, ça prouve un énorme potentiel. Et donc, Emma Lombardi a répondu présente dans le premier groupe à la natation hier, dans le premier groupe en cyclisme. Elle avait même entamé la course en première avant de se faire dépasser par Non Stanford, la Britannique, et par une Allemande. Elle finit donc troisième, mais très très belle perf. Effectivement, elle va progresser. En plus, Emma Lombardi, puisqu'elle découvre le monde élite, entre guillemets. Elle était évidemment ravie hier à notre micro après ce premier podium chez les grandes.
C'est génial, je pense que je réalise pas trop encore, mais je suis super contente. Je prenais tour après tour en course à pied. C'est vrai que du coup, après l'anglaise Nancy Ford qui revient dans le deuxième tour et troisième tour, elle part dans la montée, elle courait vraiment fort. Et là, je me suis dit, ouais, ok, là, ça va être compliqué de la tenir et d'aller la chercher, quoi. C'est top.
Alors là, peut-être pas totalement terminé, Emma Lombardi, puisqu'il y a demain, Valentin, l'épreuve mixte où généralement on brille hein, en français. On a fait une médaille à Tokyo l'année dernière. Est-ce qu'on risque de la retrouver dans cette sélection, deux hommes, deux femmes hein?
Oui, on risque de la retrouver. Alors, on verra, hein, puisque ce n'est pas moi qui fais la sélection, mais bien entendu, étant donné qu'elle a fait le meilleur classement pour une Française hier, Cassandre Beaugrand finit cinquième, elle qui était favorite, je vous le disais, hein, elle a eu notamment des crampes, elle était juste pas dedans physiquement, malheureusement. Et Léonie Perriot, qui est aussi une athlète de très très haut niveau, mais qui a eu des petits soucis physiques récemment, un Covid long, et qui hier ne fait entre guillemets que 28e. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas Emma Lombardi. Et oui, effectivement, on a une énorme chance de titre. La France multi-championne du monde et multi-championne d'Europe de relais mixte, c'est vraiment vraiment la spécialité française, parce qu'on a une densité énorme d'athlètes intrinsèquement. Chaque fille et chaque garçon présent sur ces championnats d'Europe aurait sa place probablement dans un relais de chacune des autres équipes mondiales. Donc voilà, on a une grande chance. Et effectivement, Emma Lombardi, qui est déjà d'ailleurs hein, championne du monde de relais mixte, elle l'a disputé cet été, on pourrait la revoir dès demain avec notamment des garçons qui sont en train de courir actuellement.
Et ils sont toujours en train de nager. On va arriver à la fin du kilomètre 5 pour les messieurs, Valentin.
Oui, ça ne saurait tarder effectivement. On n'a pas vraiment de perspective, parce que nous, on se trouve vraiment sur la ligne d'arrivée avec. On n'a pas la vue.
Sur ce tu qui es se passe dépendant en des natation. Informations sur l'ordinateur et
sur la télévision. Mais effectivement, ça fait 17 km qu'on est parti. Ils ont mis 8 minutes 30 à peu près à faire les premiers 750 mètres. Donc, si on double ce temps-là, on devrait les voir arriver vraiment dans quelques instants. Les garçons, on surveillera donc. Les Français, on rappelle que Dorian Coninx était le premier Français à passer aux 750 mètres avec 8 secondes de retard sur le premier qui était Marc Devaille, un Hongrois. Pierre Lecor et Léo Bergère étaient à 23 secondes de la tête à ce moment-là.
Et ça commence à sortir de l'eau. Ouais. Toujours attention à ces changements, parce qu'on peut prendre des pénalités. C'est souvent des phases où on peut perdre beaucoup de temps et on va voir les ouais. premiers écarts. Un point sur nos Français. On a parlé de Léo Bergère. Il y a Dorian Coninx qui a déjà été champion d'Europe. Pierre Lecor aussi. Tom Richard. Il n'y a pas Vincent Louis. Alors, quelles ambitions? Parce que c'est vrai que Vincent Louis fait partie un petit peu des figures de proue de notre triathlon, mais c'est vrai aussi qu'il fait souvent l'impasse sur les championnats d'Europe pour se concentrer sur le circuit mondial.
Oui, exactement. Vincent Louis a fait l'impasse, tout simplement, encore une fois, sur ces championnats d'Europe. Donc, on a une équipe de garçons composée de 4 triathlètes. Dorian Coninx, qui d'ailleurs est le premier Français, là, on peut donner les premiers temps à être sorti de l'eau avec 6 secondes seulement de retard sur le Hongrois Marc Devaille. Donc, il est passé 4e, c'est très bien. Pierre Lecor est passé 9e à 12 secondes et Léo Bergère 12e à 16 secondes. Donc, tout ça fait que ces garçons-là vont se retrouver dans le premier peloton, on va dire, à vélo. Donc, Dorian Coninx, 28 ans, qui a fait bronze au JO de Tokyo en relais mixte, tu en as parlé Arnaud, c'était la première médaille olympique pour le triathlète français, qui est champion d'Europe en 2021, donc l'an passé à Valence. C'est sa première grande victoire en individuel, donc c'est vraiment une cartouche intéressante pour les Bleus, mais petite incertitude, il revient d'une blessure au mollet, donc on verra comment ça se passe pour la course. Tom Richard, qui est un garçon qui a 29 ans, qui est 17e aujourd'hui au classement du circuit mondial, qui est peut-être un poil en retrait. Pierre Lecor, qui a 32 ans, champion d'Europe 2018 aux championnats européens sous le même format un petit peu que cette année à Munich, où il y avait plein de sports différents. Et donc Léo Bergère, Arnaud, qui parle pas forcément au grand public à la base, tu le disais, notamment Vincent Louis, mais Léo Bergère, 26 ans, 21e à Tokyo, j'allais dire seulement l'an passé, qui s'est révélé de manière bluffante aux yeux du grand public cette année. Il a pris confiance, il s'est rendu compte que non, il n'était pas si inférieur que ça à ses adversaires. Il y a eu un vrai déclic physique aussi probablement, puisqu'il a beaucoup travaillé, mais surtout mental, de ce qu'il nous dit. Et donc sur ce circuit mondial de triathlon, il a fait 4 courses, 3 podiums et une 4e place. Il se classe 2e pour l'instant parmi tous les triathlètes du monde. Le premier, c'est un Néo-Zélandais, mais donc pour l'instant c'est le meilleur Européen, Léo Bergère, qui est un petit peu la surprise du chef et qui est considéré par beaucoup comme le favori de ces championnats d'Europe, d'autant qu'on n'a pas le Norvégien champion olympique Christian Blumenfeld et qu'on n'a pas Alexis, le vice-champion olympique britannique, qui est blessé. Donc Léo Bergère, progression bluffante, beaucoup d'attentes, on va voir comment il va gérer ça, mais on peut écouter écouté à son sujet le directeur technique national du triathlon, Benjamin Maz, qui explique un petit peu comment Léo Bergère est arrivé ici.
Et Léo, là aussi, lui, il franchit des étapes les unes après les autres. Je pense qu'il a, il a beaucoup plus confiance en lui. Il ose sur un certain nombre de courses. Il se permet plus de choses. Et c'est tant mieux, tant qu'il peut capitaliser dessus. Et je crois que c'est ce qu'il fait de manière remarquable. Et puis, ça envoie des signaux forts aussi à la concurrence internationale pour lui en tant que tel. Parce que 4 courses, 3 podiums, ça montre un petit peu son niveau. Et forcément, il peut lorgner sur une médaille au classement général mondial. Mais ça montre aussi la force de l'équipe de France, que ce soit chez les hommes ou chez les filles d'une manière générale. Voilà, il va falloir compter sur les Français sur les prochaines courses majeures.
Valentin, la course, le triathlon, on a déjà un premier pointage significatif après la fin de la natation, les nouvelles de Léo Bergère notamment.
Alors, le garçon qui est sorti en tête, donc c'est un Hongrois, Marc Devaille, suivi par un autre Hongrois, Ksongor Lehmann, et Tim Elwing, l'Allemand, est sorti en troisième position. Et juste derrière, le premier tricolore, c'est Dorian Coninx, qui n'avait que 4 secondes de retard sur le premier Hongrois. Donc, autant vous dire qu'il va recoller sur le vélo. Pierre Lecor est le deuxième Français, sorti en huitième position à 8 secondes de la tête. Et Léo Bergère est 12e avec 13 secondes de retard à la natation. Donc, il a vraiment bien limité la casse, Léo Bergère. Et ça devrait se regrouper normalement sur le vélo. On rappelle, après ces 1,5 km de natation, 40 km de vélo et on finira avec 10 km de course à pied avec donc 3 belles cartouches. Dorian Coninx, Pierre Lecor et surtout Léo Bergère.
Merci Valentin. On fait quelques hectomètres.
Le carton rouge.
Ouais, on vient de voir ça, Xavier Grimaud,
carton
Guingamp
rouge.
Paris FC.
La 63e, 0-0, tournant peut-être du match avec le carton rouge contre un Parisien et contre. Alors, c'est pas là, non,
c'est Julien.
Ouais, c'est pas là, non, c'est ça qui prend un rouge direct pour un tacle par derrière sur Dylan Louissert. Alors, pour raconter l'action, Dylan Louissert se tourne quand Paul Lann a déjà lancé son tacle. Et effectivement, le tacle, quand il se termine, eh bien, il prend par l'arrière le joueur guingampais. L'arbitre a d'abord été voir la gravité de la blessure avant de sortir le rouge. Paul Lann est en train de plaider sa cause, mais le rouge est bien direct.
C'est plus maladroit que méchant, en fait. Hein.
Exactement, je suis assez d'accord. Mais voilà, au début du geste, quand il fait son tacle, Paul Lann, Dylan Louissert n'est pas dos à lui, donc le jaune aurait été peut-être suffisant. En tout cas, c'est un rouge. Et du coup, le Paris FC, qui déjà était un peu en souffrance, quand même, Guingamp en met plus depuis le début de la deuxième période, va jouer les 27 dernières minutes à 10 contre 11.
Avec
0-0 entre
Paradis,
Guingamp et Paris FC.
C'est l'enfer pour le PFC. Voilà, les fêtes comme ça.
Exactement.
Direction Munich. Bon, c'est promis, l'empreinte carbone est neutre, hein, entre Munich, Bretagne. Et pour revenir à Munich, Morgan Mori, qui est en plein centre-ville de Munich, avec l'escalade, la difficulté, les épreuves qui ont commencé. On aura le passage de notre française dans 20 minutes. Morgane, Manon Illy qui peut aller chercher une médaille, peut-être pas la plus belle, mais en tout cas le podium semble clairement envisageable.
Oui, pour la médaille d'or, ce sera extrêmement compliqué, ce sera un exploit. Il faudrait que la Slovène Janja Garnbret, 23 ans, qui est championne olympique à Tokyo, qui est la reine de l'escalade, vraiment la star actuelle de l'escalade féminine, passe à travers de sa grimpe. On va pas parier dessus. Manon Illy, qui était très en forme ce matin lors des demi-finales, deuxième qualifiée derrière Janja Garnbret, elle va s'élancer à 16h40 sur ce mur placé en plein cœur de Munich. Il fait extrêmement chaud, mais l'ambiance est extrêmement chaude aussi. Il y a peut-être 4000, 5000 personnes en bas à venir soutenir les grimpeurs. À part à Chamonix, on n'a pas cette ambiance-là. Voilà ce que nous ont dit les grimpeurs ce matin, qui sont extrêmement touchés par cet accueil. Pour l'instant, c'est la Bulgare Alexandra Todkova qui s'est hissée le plus haut. Elle n'est pas arrivée au sommet du mur. Elle s'est arrêtée à la prise 40. Devant elle, la Tchèque Eliska Adamovska et l'Allemande Anna Möhl qui se sont arrêtées toutes les deux à la prise numéro 37. Il reste deux dossards, le dossard numéro 5, l'Autrichienne Jessica Pils, puis la Slovène Mia Krampel, avant que ce soit le tour de Manon Illy. La règle, les jeunes femmes ont 6 minutes pour arriver le plus haut possible sur ce mur et qui commence par des prises noires, puis des prises bleues et qui part ensuite sur la gauche à travers une pyramide qui vient crever comme ça le plan incliné où on se retrouve à escalader avec le dos parallèle au sol. À ce moment-là, on est à 5m30, 6m peut-être du sol. C'est le moment le plus spectaculaire de cette grimpe. Pour l'instant, Todkova qui mène la compétition. Manon Illy dans 3 dossards maintenant.
Et on rappelle, elles ont une voix, c'est-à-dire qu'elles sont à 6 mètres, mais oui, attachées. Hein.
bien sûr, c'est au bloc où le mur ne dépasse pas 4m30 que les garçons et les filles ne sont pas attachés et ils tombent sur un tapis en mousse. Là, ils sont sécurisés par des pareurs, qui sont des volontaires d'ailleurs, qui sont licenciés dans des clubs d'escalade.
Et dans une petite heure, ça sera terminé de la finale de la difficulté femme, mais il y aura le bloc messieurs avec deux Français qualifiés, Morgan.
Oui, et on a bien cru à un moment que les Français allaient faire un énorme coup lors des demi-finales en milieu de journée. Arnaud, le bloc, c'est ces quatre problèmes que vous devez affronter les uns après les autres avec 5 minutes de repos entre chaque. Des courtes montées, mais extrêmement difficiles, avec parfois des sauts, des équilibres contre la paroi. On se retrouve parfois en cochon
pendu ou
en croix tout à l'heure. Voilà, exactement comme dans les anneaux en gymnastique, il y a cette figure-là que les garçons devaient réaliser. Il y avait seulement 6 qualifiés pour la finale. Bon, il y a eu 3 Français qualifiés pour la finale, mais on n'en aura que 2. C'est Sam Avezou qui est un des premiers à passer, qui a réussi à aller au sommet, qui a fait un top comme on dit pour le premier passage, et qui ensuite s'est arrêté sur 2 voies suivantes au milieu. Ça fait des points aussi. Et Majdi Chal qui a réussi le premier top sur le premier passage et qui lui aussi a marqué des zones. Tous les deux sont qualifiés pour la finale tout à l'heure à 17h30.
Et on suivra ça avec toi tout à l'heure, Morgan. Un point, le temps, le score. Guingamp, Paris FC, c'est de la Ligue 2. Troisième journée, Xavier Grimaud.
Oui, toujours 0-0. La 68e minute à Roudourou, mais on le rappelle, peut-être un tournant. Le Paris FC est à 10, carton rouge direct contre Paul Lagne il y a quelques minutes. Et l'entrée dans un instant de Gaëtan Courtet, la dernière recrue guingampaise, l'ancien Rémois, notamment Gaëtan Courtet, qui va entrer en jeu pour la première fois ici sur la pelouse de Guingamp. 0-0, la 68e.
Tout de suite, Xavier. Nous, on revient dans un instant. On va parler du match de ce soir à 21h, Paris Saint-Germain, Montpellier, la première de Christophe Galtier au Parc des Princes, et surtout le retour de Kylian Mbappé. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
L'Intégral Sport jusqu'à 19h. On continue de se plonger dans ce beau samedi après-midi, hein. Le triathlon, l'escalade, du football, avec cette rencontre à suivre ce soir 21h sur RMC, le Paris Saint-Germain qui affronte Montpellier, première de Christophe Galtier au Parc, une première attendue, tout comme le retour de Kylian Mbappé ménagé le week-end dernier à Clermont, et également celui d'avant avec le trophée des champions. Au commentaire ce soir, Julien Landry et Clément Brossard qui est avec nous en studio. Salut Clément.
Salut Arnaud, salut à toutes et à tous.
Avec déjà un mot sur les compos probables, et côté parisien évidemment l'information principale c'est ce retour de Kylian Mbappé.
Exactement, la compo officielle tombera d'ici 3h30 maintenant. 3-4-1-2 attendu pour le Paris Saint-Germain, le schéma tactique mis en place par Christophe Galtier depuis son arrivée. Donnarumma commencera dans la cage, lui qui a été conforté à son poste de numéro 1 devant Keylor Navas. Une défense à 3 centraux donc, avec Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Même s'il y a une petite incertitude, on pourrait aussi voir la recrue Moukielé occuper ce poste d'axe droit. Nuno Mendes sur le côté gauche et Hakimi sur le flanc droit. Au milieu de terrain, Vitinha et Verratti. Juste devant, Lionel Messi. Et puis devant, on devrait retrouver évidemment la doublette entre Neymar et Kylian Mbappé pour sa première au Parc des Princes et sa première officielle cette saison.
Et sa première tout court, effectivement. Lui qui avait été ménagé pour des petits problèmes à l'adducteur. Côté Montpellierin, on a aussi une petite idée.
Oui, avec Jonas Omlin qui débutera dans la cage évidemment. Château, Sacco, Estève et Saint-Luce pour une défense à 4. Chotard et Ferry devraient être les deux milieux récupérateurs. Ferry qui revient, lui qui était absent sur ce premier match. Mawassa sur le côté droit, Wai sur le côté gauche. Savagnier, double buteur, sera bien présent avec le brassard de capitaine a priori dans l'entrejeu montpellierain. Et puis devant, l'ex-stéphanois Wabi Kazri.
On le disait, c'est la première de Christophe Galtier au Parc des Princes. L'entraîneur qui a d'ailleurs évoqué son futur baptême en quelque sorte en conférence de presse.
Et pourtant, l'histoire entre Christophe Galtier et les supporters parisiens, notamment le CUP, elle n'avait pas très bien commencé, évidemment, parce qu'il est étiqueté Marseillais. C'est un Marseillais, Christophe Galtier. Donc, dans la logique et dans la rivalité, on se dit qu'il n'avait pas vraiment sa place sur le banc du Paris Saint-Germain. Quelques jours après son arrivée, il avait donné une interview dans laquelle il disait que le public du Parc des Princes n'était peut-être pas la meilleure ambiance de France. Ça avait un petit peu irrité les supporters parisiens. Depuis, il s'est rattrapé. Et jeudi, en conférence de presse, il a en effet évoqué sa première au Parc des Princes qu'il connaîtra ce soir face à Montpellier.
Je pense qu'il va y avoir de l'émotion parce que ça va être plein. C'est le premier match de la saison. Qu'à 55 ans, je vais être sur le bon côté, c'est-à-dire à droite, sur le bon banc. Et que je suis très heureux. Je pense qu'on aura un accueil chaleureux parce que les joueurs, depuis le 4 juillet, méritent un accueil chaleureux. Le passé, c'est le passé. Il y a une nouvelle page blanche qui est là, qui s'est ouverte le 4 juillet. Un cahier blanc, vierge, qui s'est ouvert. Les joueurs travaillent durs. Ils ont été bons, efficaces. Il y a un bon état d'esprit. En termes d'investissement et de comportement, on doit être irréprochable.
Christophe Galtier qui s'attend de la chaleur niveau accueil, mais aussi chaleur au niveau des conditions météo, même si à 21h, eh bien, le mercure commencera un petit peu à descendre. Vous savez, la France qui subit une vague de chaleur. Lui, il a faim, il a envie de retrouver les terrains. C'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis le début de la saison. C'est Kylian Mbappé.
Lui va donner chaud, encore plus après cette température plus qu'estivale. Il a quitté le Parc des Princes le 21 mai dernier face à Metz. Il a annoncé sa prolongation de 3 ans. Il marquait 3 buts également. Et il a hâte de débuter officiellement sa saison. Alors il s'est fait charrier avec Renato Sanchez à l'entraînement jeudi, on a pu voir ça. Il est arrivé un petit peu plus tard que les autres sur la pelouse, il y a eu quelques applaudissements, quelques moqueries, et puis il s'est entraîné un peu plus loin du groupe de Neymar et de Lionel Messi avant de retrouver ses amis d'attaque pour la séance, la continuité de la séance. Donc il a repris les séances collectives depuis mardi, Kylian Mbappé. Il avait avant ça connu des gênes aux adducteurs, une gêne aux adducteurs qui l'a empêché de faire ce match à Clermont. Il y a eu également cette suspension qui l'a privé du trophée des champions face à Nantes. Et pour autant, malgré ces deux matchs manqués, Christophe Galtier, il ne doute pas du tout de l'état de forme de son attaquant.
Il a été certes perturbé dans sa préparation, évidemment par sa suspension. Il a eu finalement peu de temps de jeu dans les matchs de préparation parce qu'il y avait l'objectif de préparer au mieux l'équipe sur le trophée des champions. Il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais il est en forme. La petite gêne qu'il avait veille de match face à Clermont a complètement disparu. Il est revenu très dynamique cette semaine. J'ai aucune crainte sur le fait que Kylian soit rapidement dans le rythme. Après, sur la durée du match, on verra. Évidemment que c'était un gros atout supplémentaire d'avoir Kylian avec nous.
C'est pas bon de prendre le Paris Saint-Germain maintenant quand on sait la motivation et les Montpelliérains, pas qu'ils soient un petit peu inquiets, mais c'est vrai qu'on a déjà vu une défense un peu en difficulté contre Troyes le week-end dernier. Alors au Parc, forcément, il y a de quoi être inquiet, Clément.
Et pour autant, ils se sont rassurés contre Troyes, mine de rien, en remportant cette rencontre 3-2, parce qu'il y avait une préparation qui était exécrable de la part des Montpelliérains, avec 5 défaites en autant de matchs, 14 buts encaissés.
Plus une fin de saison aussi compliquée.
Où ils n'ont pas gagné pendant des mois. Et cette victoire contre Troyes, peut-être que mine de rien, elle a fait un petit peu du bien quand même à ces Montpelliérains, à ces Héroltais. Alors oui, quand la question a été posée à Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Montpellier, en conférence de presse cette semaine, il disait je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment pour prendre ce Paris Saint-Germain là. Et j'ai l'impression que sur ce début de saison, ils sont très très bien lancés. Donc ça risque d'être compliqué. Eux qui pour autant ne veulent pas faire que subir, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse également, l'entraîneur montpelliérain. On veut essayer de garder le ballon et surtout ne pas se mettre en tête dès le début du match qu'il va falloir limiter les dégâts. On essaiera d'imposer comme on le peut notre jeu. Ça reste néanmoins d'être compliqué pour ces Montpelliérains là ce soir.
Merci Clément, tu seras au commentaire de cette rencontre avec Julien Landry à suivre en direct et en intégralité sur RMC à 21h. Le tour des directs avec le dernier quart d'heure qui a commencé entre Guingamp et le Paris FC. C'est de la Ligue 2, 3ème journée. Xavier Grimaud.
Ouais, la 78e, toujours 0-0 entre Guingamp et le Paris FC. Le Paris FC qui est à 10 contre 11 mais qui pour l'instant résiste bien avec l'entrée de Mehdi Merghem pour les Guingampais qui amène un peu de technique et l'entrée de Courtais qui amène un peu d'appel en profondeur, mais pour l'instant Paris est en train de tenir comme il faut son résultat avec ce 0-0 ici à Roudourou. Il reste 11 minutes encore à jouer 0-0.
Et en football, la Première Ligue, merci Xavier. Tout à l'heure, Aston Villa a battu Everton 2-1. Sachez qu'il y a déjà 2-0 pour Arsenal en Première Ligue face à Leicester, doublé de la nouvelle recrue Gabriel Jesus, l'ancien Citizen. Manchester City qui mène 2-0 également après une demi-heure de jeu face à Bournemouth. Gundogan et Kevin De Bruyne. Un point sur le triathlon, l'épreuve messieurs. Valentin Jamin, ce sont les championnats d'Europe et le championnat d'Europe de triathlon à Munich.
Et ça se passe très bien pour l'instant pour nos trois Français potentiellement médaillables. Après 15 km parcourus en vélo, Léo Bergère, Dorian Coninx et Pierre Lecor font partie du groupe de tête, donc à vélo. Ils sont 12 dans ce groupe de tête et on a vu les Français passer à l'instant une troisième fois sur la ligne d'arrivée. Il y aura encore 5 passages à vélo et puis des passages également avec la course à pied. Donc voilà, après le kilomètre et demi de natation bien négocié, pour l'instant ça se passe bien sur le vélo pour Pierre Lecor, Dorian Coninx et Léo Bergère, grand favori, en tout cas favori de ce triathlon des championnats d'Europe.
Et encore une heure d'épreuve pour le triathlon. L'escalade, ça va être le passage de la française, la finale de la difficulté, Morgane Maury, toujours à Munich.
Oui, Dans 3 minutes, on est terminé pour la Slovène Mia Krampel qui prend la deuxième position à deux grimpeuses de la fin de cette finale de la difficulté dans ces championnats d'Europe d'escalade à Munich. Pour l'instant, la compétition est dominée par l'Autrichienne Jessica Pils qui a été la seule à terminer les deux tiers de ce mur. Elle est arrivée dans la partie où le mur se redresse avant de lâcher et de redescendre. Deuxième position pour Mia Krampel, 40+, c'est la prise à atteindre pour la Française Manon Hilly si elle veut être sûre de monter sur le podium. La deuxième position est donc occupée par Krampel. Troisième place pour Alexandra Todkova, 40+ également pour la Bulgare, mais elle a été un peu moins rapide que la concurrente slovène. Et derrière Manon Hilly, il y aura Jean-Jacques Gandbret, la championne olympique, la slovène, la grande favorite de la compétition. Manon Hilly est derrière ses colonnes doriques, ses colonnes d'un musée munichois attendent sur ses chaises façon cinéma. Et dans 2 minutes, c'est elle pour cette finale de la difficulté.
Et on sera de retour dans un peu plus de 2 minutes pour suivre cette finale de la française. On parlera également de l'affiche de 17h en Ligue 1, Monaco-Rennes, un des premiers chocs de cette saison. A tout de suite dans l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
16h passé de 43 minutes sur RMC, l'Intégral Sport jusqu'à 19h. Et sans tarder, on fonce à Munich puisqu'elle est sur le mur d'escalade. La finale de la difficulté dame. Manon Hilly est en train de grimper. Morgan Mori suit le début de cette ascension pour Manon Hilly.
Elle a 6 minutes pour arriver le plus haut possible. Déjà 1 minute 30 de passer pour Manon Hilly qui vient d'en terminer avec le premier tiers. Il y avait une prise qui était difficile pour elle. C'est la plus petite des grimpeuses de cette finale, une demi-lune noire. Et bien sûr, la prise se situe le plus haut. Elle a réussi, Manon Hilly, à passer cette prise difficile. Elle a terminé avec les prises bleues. Maintenant, elle est sur la partie la plus inclinée du mur. Son dos est parallèle avec le sol. Elle est à 5 mètres d'altitude. Manon Hilly, la grimpeuse réunionnaise, est sur une espèce de volcan tout noir. Elle serait comme accroché au cratère avec sa couette qui est en train de pendre dans le vide. Léger mouvement de relâchement du bras droit parce que ça fait pratiquement 3 minutes, 2 minutes 30 qu'elle est sur ce mur. Manon Hilly, elle va maintenant se redresser, passer sur la face opposée de ce volcan noir pour aller chercher une autre prise noire avec la force de ses bras. La main droite est déjà positionnée. Elle vient s'assurer, passer son guide-vie dans sa ligne de vie dans le mousqueton. Manon Hilly qui va attaquer dans un instant, Arnaud, l'une des parties les plus compliquées de ce mur. Elle est à mi-grimpe, il reste 3 minutes. C'est cette pyramide qui vient transpercer ce mur d'escalade avec cette partie. Vous êtes vraiment le dos parallèle au sol. Le public qui encourage chaudement la Française qui porte des lunettes mais qui les a posées avant sa grimpe. Il faut grimper fort, il faut grimper vite parce que c'est aller vite devant Jessica Pils. 45+, c'est ça la prise qu'elle a atteint. Mia Krampel, 40+ en 4 minutes 21. Voilà l'objectif de la Française pour monter, être sûre de monter sur le podium. Elle a les jambes écartées, Manon Hilly, avec la main gauche qui tient une prise noire, un peu comme une échelle, mais avec le dos parallèle au sol. Il faut passer l'arête de cette pyramide bleue. Manon Hilly qui mesure chacun de ses gestes. Arnaud, c'est un effort extrêmement long, extrêmement compliqué. Éviter la tétanie des muscles, bien choisir ses mouvements, parce que la moindre erreur vous fait terminer. On ne recommence pas une difficulté. Il faut aller au bout sans faire de faute. Ça y est, elle a passé l'arrêt de cette pyramide bleue. Elle continue d'avancer. Manon Hilly, main gauche, main droite. Cette fois, c'est son pied gauche qu'il faut essayer de ramener un tout petit peu plus haut. Elle y arrive. Et maintenant, c'est au pied droit qu'elle vient placer pratiquement au niveau de son visage. Elle se laisse un tout petit peu pendre dans le vide avec la main gauche, bien sûr, qui est accrochée. Toujours ces mouvements de décontraction du bras pour Manon Hilly. Il reste 2 minutes. Elle arrive dans la partie où le plus de filles.
Donc là, Morgane, en gros, elle est à 2 prises d'aller chercher une médaille. Hein. Pratiquement.
Oui, mais ce sont peut-être les prises les plus compliquées. Elle va atteindre dans un instant un diamant noir qu'on aurait coupé en son médian et qui dépasse bien sûr de ce mur. C'est là où beaucoup de filles ont craqué. C'est la partie difficile pour Manon Hilly. Et bien sûr, après 4 minutes 30 d'efforts, les muscles se font plus raides pour la petite grimpeuse réunionnaise. Elle va chercher la face opposée. Et ça y est, elle tient avec ses deux mains. Et il faut faire travailler les abdos pour ramener ses pieds sur ce bloc noir pour ensuite aller chercher de l'autre côté, comme si vous vouliez passer par-dessus, à cheval sur cette prise noire. C'est ce qu'elle est en train de réaliser, Manon Hilly. C'est la médaille qui est en train de se décider.
Super.
Arnaud, si elle dépasse les 40 plus, ce sera bon. Elle est déjà à 40. Il faut qu'elle aille valider là.
Oh.
La prise suivante, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, Manon Hilly. Mais sur le mur, elle est comptée 41. C'est bon. Deuxième place pour Manon Hilly. Médaille assurée. Ce sera l'argent ou le bronze. Mais maintenant, c'est la reine de l'escalade, Jean-Jacques Gambret, la Slovène. championne du monde, championne olympique, qui va arriver sur cette place de Munich. Mais c'est sûr, c'est une médaille pour Manon Hilly. Au mieux l'argent, au pire le bronze. L'escalade apporte sa première médaille, c'est sûr, à l'écho de l'équipe de France pendant ces championnats d'Europe multisport ici à Munich. L'argent, le bronze pour Manon Hilly, la réponse dans 8 minutes.
Merci Morgane et bonne nouvelle, bravo Manon Hilly pour cette médaille assurée. Le triathlon, on est un peu moins de la mi-course. C'est le triathlon, l'épreuve messieurs, Valentin Jamin, toujours à Munich.
Les triathlètes de tête qui ont passé la mi-course, en tout cas en ce qui concerne l'épreuve de vélo, puisqu'on est un petit peu plus de 20 km, toujours ce groupe de 12 triathlètes, un petit peloton devant avec trois Français, les trois potentiels médaillables, Léo Bergère, Pierre Lecor et Dorian Coninx. Léo Bergère, deuxième du circuit mondial de triathlon cette année, favori qui prend bien ses relais et qui donc est toujours dans le coup, pourquoi pas, pour essayer de prendre une médaille, tout comme Dorian Coninx et Pierre Lecor.
Merci Valentin. La Ligue 1 avec ce match dans 13 minutes. Vous pourrez suivre le coup d'envoi et cette rencontre en direct et en intégralité. Monaco-Rennes. Et on accueille, il va nous accompagner pour cette rencontre, Manuel Amoros. Salut Manu.
Salut Arnaud. Bonjour à tous.
Déjà une très belle affiche et on retrouve à Louis II Florent Germain et Maxime Tilliette. Messieurs, le rappel des compositions s'il vous plaît.
Salut. Bonjour à Manu Amoros.
Bonjour Manu, bonjour à tous. Bonjour. La compo monégasque pour débuter avec Alexander Nubel dans les buts. Vanderson, Dizazi, Maripane et Caillou Henrique formeront la défense. Jean-Lucas et Youssouf Fofana devant cette défense. Et puis dans les couloirs, Alexander Golovin, Crépin Diata de l'autre. Et devant, un duo offensif qui va débuter pour la première fois en Ligue 1, Ben Yedder et Brel Mbolo associés.
Et du côté du Stade Rennais, c'est le même 11 que lors de la première journée face à Lorient. Cette défaite 1-0 des Rennais. Mandanda dans le but des rouges et noirs, Truffert à gauche, Traoré à droite, Arthur Théâtre et Joe Roden, la charnière centrale new look pour cette saison du côté des Rennais, milieu avec Santa Maria entouré de Flavien Tay et de Lovro Maier, et trio offensif avec Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud et Gaëtan Laborde à la pointe de l'attaque de Bruno Genesio. À noter que Arnaud Kalimuendo aura sûrement du temps de jeu, hein, mais il vient d'arriver à peine du côté du Stade Rennais, il est sur le banc des remplaçants.
Manu, si on voit pas de but là, c'est à rien y comprendre au football, hein.
Ah ben oui, tu as raison, parce que Monaco avec une attaque de feu et surtout bien appuyé par les milieux de terrain peut marquer beaucoup de buts. Donc et Rennes qui premier match contre Lorient, beaucoup d'occasions, malheureusement manque d'efficacité devant le but. Donc il faut espérer que les Rennais se réveillent en attaque.
Et on attend ce réveil effectivement, mais il y a aussi Maxime, des Monégas qui sont attendus à la relance après la claque de mardi et cette élimination à Eindhoven en tour préliminaire de Ligue des Champions. Et
tout à fait, ils sont 7 à avoir débuté contre le PSV, de nouveau alignés dans le 11. 5 même ont joué les 120 minutes, sont allés jusqu'au bout des prolongations. Il s'agit d'Alexander Nubel, de Vanderson, Dizazi, Maripane et Fofana. On va voir comment ils vont encaisser. Il y a même la charnière centrale, hein, Dizazi, Maripane, qui eux ont joué tous les matchs en intégralité depuis le début de la saison. La recrue monégasque arrive cette semaine, Malang Sarr est présent sur le banc, tout comme Benoît Badiachil qui est de retour progressivement de blessure. Va falloir donc encaisser cette élimination prématurée qui ne permet pas donc d'atteindre la Ligue des Champions, mais plutôt les phases de poule d'Europa League. Les dirigeants, notamment Paul Mitchell, le directeur sportif, et puis l'entraîneur Philippe Clément, ont assuré que le groupe était mieux préparé mentalement et physiquement que la saison passée. Et bien on attend de voir ça sur la pelouse.
Et on parie sur cette rencontre Monaco-Rennes.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guillet de l'équipe des paris qui nous a rejoint. Bonjour Yoann.
Bonjour messieurs, salut à tous.
Salut Yoann.
Alors, les cotes ?
Les cotes, elles sont plutôt déséquilibrées en faveur de Monaco pour le coup. On double la mise si on mise sur un succès monégasque. C'est 3,55 la victoire de Rennes, 3,70 le match nul. Malgré tout, c'est un match qui me paraît compliqué pour Monaco 4 jours après son élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions. J'ai peur du contre-coup, d'une saison qui sera moins palpitante après ce revers. Et en face, en plus, on retrouve des Rennais revanchards après leur défaite surprise face à Lorient la semaine dernière. Je trouve qu'il est difficile de dégager un favori, mais je pense que s'il y a sursaut d'orgueil, ça sera du côté des Bretons. Je vous propose donc de miser sur Rennes qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,55.
Ah, moi Manu, je vois plutôt l'inverse des monégasques.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois les deux équipes qui marquent et victoire de Monaco.
Moi, je suis d'accord.
Monaco et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3,60.
Allez, on est d'accord avec Manu. Merci Johan.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La Ligue 2, les dernières forces jetées dans la bataille. Guingamp Paris FC, Xavier Grimaud.
Oui, on est dans la dernière minute de cette rencontre. Toujours 0-0 entre Guingamp et le Paris FC. Les Guingampais qui auront certainement des regrets parce qu'ils ont plutôt dominé cette rencontre, notamment la deuxième période. Le Paris FC réduit à 10 depuis maintenant une demi-heure avec le carton rouge contre Paul Lannes. Les Guingampais qui poussent, mais il n'y a pas de grosse situation. Peut-être le dernier centre de Stéphane Kemper, capté par Filipovic, le gardien du Paris FC, sur le dégagement. Monsieur l'arbitre qui va certainement, ou pas loin en tout cas, siffler la fin de la rencontre. Est-ce qu'on reste pour la fin, hein, mon cher Arnaud?
Écoute,
pour,
non, on va te retrouver pour valider le score parce que on ne va pas manquer le coup d'envoi de ce Monaco-Rennes à suivre dans l'Intégral Sport avec Manuel Amoros et nos commentateurs sur place. Coup d'envoi dans 8 minutes sur RMC.
RMC
Intégral Sport.